Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Clarisse. Ben écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. C'est un contexte un peu particulier puisqu'on est en période de confinement et puis on s'est loupé lors de ton précédent passage à Paris. Mais en tout cas, on va essayer de faire un super épisode. Et ben, comme tu le sais sur le podcast, la tradition, c'est un petit peu de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Pas forcément ton premier souvenir, mais peut-être ton premier souvenir de course ou tout simplement ton premier souvenir dans la cour de récréation.
Alors, mon premier souvenir, bah oui, effectivement, de sport, je pense qu'il est dans la cour de récréation. J'en ai plein, en fait, des souvenirs de... Si, en fait, je me souviens très bien de mon premier souvenir de sport. J'étais en petite section de maternelle et on faisait des espèces de parcours d'acrobatie dans la salle de gymnastique. Et je me souviens d'avoir eu l'impression de sauter de très, très haut depuis un plot. et d'être, je me croyais un peu comme James Bond. Et quelques temps plus tard, j'ai eu l'occasion de revoir cette salle de gymnastique et j'ai rien trouvé de vraiment très très haut. Et non, c'est ça mon premier souvenir de sport. Après, les souvenirs de sport, effectivement, ils commencent beaucoup dans la cour de récré avec des chats des lits des lots, comme on appelait ça. Et moi, j'ai commencé par l'athlétisme, ouais. En fait, et ça a été justement beaucoup lié à ma capacité à courir vite pour aller libérer mes copains. Voilà.
Ok, d'accord. Donc déjà, tu étais un petit peu casse-cou, même très jeune et un petit peu aventurière.
Oui, moi, j'ai toujours beaucoup aimé le sport. Et puis surtout, je suis la dernière de 4 enfants et j'ai 2 grands frères juste au-dessus de moi qui me traînaient toujours un peu avec eux, faire plein de choses. Et j'avais du mal à accepter qu'ils soient capables de faire des choses que moi, je ne sois pas capable de faire. Et donc, ça m'a pas mal tiré vers le haut, on va dire.
Ok, d'accord. Et tu disais qu'ensuite, tu avais fait de l'athlétisme.
Ouais, moi, c'est le premier vrai sport. Enfin, c'est pas le premier sport que j'ai fait, mais c'est le premier sport que j'ai fait pendant longtemps. J'en avais fait du CP à la terminale. En compétition. Alors au début, c'est quand on a 7 ans et qu'on mesure 1m20, c'est assez marrant parce qu'on fait des compétitions d'athlétisme. En fait, on est avec des copains, on joue à chat, puis tout d'un coup, on dit « Ah, Clarisse, viens sur la ligne de départ » et hop, on court un 50 mètres et après, hop, on retourne jouer à chat avec ses copains. Enfin, c'est un peu, c'est un peu le bazar. En fait, on apprend l'athlétisme par le jeu. Et puis, j'ai continué, j'y ai pris goût, j'ai fait pas mal de cross et tout, mais j'ai jamais eu un niveau extraordinaire. En fait, j'ai grandi assez tard et du coup, je me suis spécialisée que quand j'étais en seconde, première, quoi. Donc, du coup, tu peux pas vraiment. Mais j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours fait plein de compètes et je m'en sortais pas trop mal. Donc, c'était sympa. Voilà.
Ouais, puis il y a généralement une bonne ambiance dans les clubs d'athlétisme. Alors peut-être un peu moins au départ des crosses où l'ambiance est un petit peu plus tendue et un petit peu plus sèche, mais en tout cas dans les clubs il y a toujours une super ambiance. Donc pour les enfants c'est génial pour grandir.
C'est sûr que c'était top. Je me suis fait plein de copains et tout. Après c'est vrai que j'ai découvert le sport d'équipe. J'ai fait du rugby après en universitaire et je me suis dit, mais enfin, l'athlétisme c'était génial, mais je me suis quand même fait chier à faire un sport quand même pas hyper fun pendant 10 ans, alors que il y a quand même des sports plus funky, quoi. Voilà.
Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai eu le même symptôme que toi. J'ai fait moi du judo et après j'ai fait du tennis à haut niveau, j'ai fait en sport études. Ouais. Et quand j'ai découvert le rugby aussi en universitaire, et ben je me suis dit mais pourquoi j'ai perdu mon temps dans des sports où t'es tout seul.
Exactement,
où tu te sens frustré alors que tu peux jouer avec des copains et te rouler dans la boue.
Après ce que je trouve chouette avec l'athlétisme, c'est que tu vois aujourd'hui encore j'ai eu des soucis de genoux et tout, enfin bref on s'en fout, mais je peux encore aller courir et tout. Je trouve que le fait de pouvoir quand même faire une activité seule hyper régénératrice, ouais, comme ça, c'est quand même chouette. Mais bon, c'est sûr que c'est pas aussi funky qu'un sport collectif.
Ouais, c'est sûr. Et non, et puis en plus l'athlétisme a quand même l'énorme avantage de créer des capacités cardio-respiratoires sur le long terme que tu gardes, parce que quand on a fait pendant plusieurs années jeune, je pense que ça, c'est des choses que tu gardes à vie.
J'espère.
Et d'ailleurs, toi, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand tu vas naviguer, est-ce que c'est, j'imagine que c'est un critère hyper important, le cardio, parce qu'il y a des moments où ça monte bien, non?
Ouais, bah c'est un peu particulier la course au large, en fait, parce que on est amené, c'est très très, en fait, ça dure longtemps, donc on est amené à faire des efforts très intenses pendant, par exemple, une demi-heure ou une heure. Et puis après, on fait plus grand-chose pendant une ou deux heures. Et puis hop, à froid, hop, on repart faire un gros effort. Donc, c'est très, très irrégulier. Et oui, avoir une bonne capacité cardio, c'est important. Après, il faut surtout... c'est pas un sport où il y a que le physique qui joue, parce que sinon d'ailleurs il y aurait pas autant de femmes capables de assez bien figurer, quoi. Parce que sinon ce serait, enfin voilà, s'il y avait que le physique qui jouait, on serait tout le temps dernière, quoi.
Bon, t'as mentionné plein de sujets que j'ai envie d'aborder un petit peu plus tard, mais pour essayer de garder un petit peu le fil chronologique, comment est-ce que t'as découvert la course au large et la voile?
Alors moi je suis issue d'une famille parisienne. Je suis née et j'ai grandi en région parisienne. Et mes grands-parents du côté de ma mère et mon père habitaient au bord de l'eau. Donc j'ai toujours eu la chance d'aller en vacances en bord de mer, dans le Morbihan, pour d'un côté, et mes autres grands-parents, ils étaient du côté des îles anglo-normandes, à Jersey. Et donc, j'ai découvert un peu la mer et les bateaux comme ça, mais on faisait pas grand-chose. Enfin, on n'avait pas de bateau de famille. On faisait juste des stages de dériveur avec mes cousins ou des petites choses comme ça. Enfin, c'était pas très intensif, mais on allait toujours voir les bateaux au port, rêver, dire « Ah, oh, j'aurais celui-ci » ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai découvert la course, enfin, on va dire l'habitable en compétition, donc des un peu plus gros bateaux en course, ouais. Lors d'une régate qui s'appelle le Trophée des lycées, qui est ouvert à tous les lycées de France. Alors, c'est essentiellement quand même des lycées côtiers, mais on trouve aussi des lycées de région parisienne ou d'ailleurs. Et donc, moi, j'étais dans un équipage 100% féminin. Et bon, on n'a pas été très, très solide, mais ça m'a fait découvrir la régate et j'ai adoré ça. C'était une toute petite régate, tout petit budget, mais c'était vraiment chouette. Et après, moi, je suis partie en prépa, donc là, forcément, ça a fait une petite pause, on va dire, du côté des activités extrascolaires. Mais quand je suis arrivée en école, moi, j'ai fait une école de commerce, et ben, il y avait pas mal de possibilités pour faire de la voile et notamment pas mal de régates étudiantes. Et c'est vrai que les régates étudiantes, bon, ça a une image un peu rigolote et tout, mais mine de rien, il y a pas mal de skippers pro aussi qui bossent sur ces régates-là. Enfin, il y a pas mal de passerelles entre le monde amateur en fait et le monde professionnel, et ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et en fait, quand t'es hyper quand t'as envie et que tu dis un peu oui à tout, on te propose un convoyage, enfin on te propose de ramener un bateau d'un point B, enfin il y a, et en fait comme ça j'ai découvert le bateau, la régate, j'ai pu pratiquer de plus en plus, apprendre de plus en plus de choses, et plus tu rencontres du monde, plus on te propose des choses, enfin voilà. Et petit à petit j'ai vraiment plus naviguer, et jusqu'au moment où j'ai rencontré mon conjoint, Tanguy Le Turquet, qui lui est skipper professionnel, lui c'est son métier, il a une formation de skipper pro, donc il a des brevets d'état, et lui il m'a fait découvrir pour le coup, enfin, donc lui il a baigné un peu dans le monde pour le coup de la voile depuis sa plus tendre enfance, il habitait même sur un bateau avec sa famille, et lui il m'a fait découvrir la course au large à proprement parler. La course au large c'est un petit peu différent de tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Moi je faisais des courses où on allait naviguer le matin et on revenait le soir, et la course au large, le concept c'est que tu vas naviguer pendant sur un grand parcours au large, et tu pars pour plusieurs nuits, plusieurs jours, jusqu'à faire des trains atlantiques, des tours du monde et tout ça. Et lui, il m'a vraiment fait découvrir cet univers-là. Au début, je me disais pas ah bah moi aussi je vais faire ça. Puis petit à petit, c'est venu comme quelque chose de concret dans ma tête. Voilà.
D'accord. Et t'étais encore étudiante au moment où tu découvres un petit peu
plus.
Oui,
c'était en 2011, et moi j'ai fini mes études en 2013, donc il me restait 2 ans d'études, enfin une année de césure et une année d'études, une année de master 2. Et donc oui, j'étais encore étudiante. Et après mes études, j'ai pas tout de suite décidé de m'installer en Bretagne et d'aller faire du bateau. J'ai créé ma boîte avec mon frère. C'est une entreprise qui existe toujours. C'est un site internet qui s'appelle kzn.com, qui permet de trouver et de réserver des séjours outdoor, qui marche super bien. Enfin, qui marche super bien, un peu moins en période de confinement, forcément. donc c'est un peu dur en ce moment, mais voilà. Et j'ai commencé par ça. Donc là non plus, qui dit start-up et création d'entreprise, c'est beaucoup de boulot. Donc là, je pratiquais pas non plus énormément. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de vraiment me lancer, j'ai eu un peu un coup de ras-le-bol, en fait, de ma vie à Paris. Enfin, j'ai un peu changé de vie, on va dire, en allant rejoindre Tanguy en Bretagne. Voilà, j'ai eu un peu un coup de ras-le-bol pour plein de raisons de ma vie de créatrice de start-up, de ma vie à Paris et tout ça. Et là, j'ai décidé de me lancer quelques semaines, mois après être venue m'installer en Bretagne, de me lancer moi-même dans mon propre projet de course au large. Et à commencer par une course qui s'appelle la Mini Transat, qui est une transatlantique en solitaire sur des petits bateaux de 6,50 m, et qui a la particularité d'être un peu ouvert à... Enfin, qui est vraiment une entrée vers le monde de la course au large professionnelle pour pas mal d'amateurs. Et qui est surtout, comme c'est des petits bateaux de 6,50 m, avec aucun moyen de communication à bord, enfin avec des moyens assez limités, avec des budgets raisonnables, on va dire, pour un amateur et pour quelque chose qui se vit un peu comme... comme le rêve d'une vie, quoi. Donc voilà, là je vais vite, hein, mais...
Chérie, t'es au téléphone ?
Pour comment j'ai atterri là-dedans.
Je t'ai perdu.
Dites. Alors là, je suis toute seule. J'ai perdu Barthélémy.
T'es en vidéo ? Tu peux couper, s'il te plaît ?
D'accord. Allô ? Ah, zut.
Ah, ça y est, je te retrouve.
Ah, c'est bon, ok.
Tu pourras couper ou c'est galère ?
Ouais, bien sûr, je vais le faire.
Tu m'as dit à la fin de mon histoire ou il faut que je recommence ?
Ouais, normalement c'est bon parce que si tu veux le
Ah oui, il enregistre
en fait tout est enregistré en local. Toi t'es en...
OK.
C'est pour ça qu'il faut laisser quelques minutes après une fois que c'est enregistré pour que ça puisse rebondir.
D'accord, ça marche.
Écoute, génial. Franchement, c'est une super belle histoire. Moi, je voulais te demander, t'avais un petit peu une sécurité financière où tu commences quand t'as quitté ta boîte et que tu partais. Est-ce que t'as pris un risque un peu financièrement, j'imagine aussi?
Bah oui, j'ai pris un risque financier parce que à titre personnel, j'avais pas de revenus et j'avais pas de chômage non plus en tant que créatrice d'entreprise. Mais c'est tout relatif. Enfin, ça, je fais toujours attention à bien préciser les choses. C'est que moi, je suis dans une famille privilégiée et à tout instant je pouvais revenir chez ma maman ou chez mon papa et avoir gîte et couvert et c'était enfin voilà j'avais ouais, 24 ans 25 ans et j'avais pas d'enfants à charge enfin voilà j'avais pas de prêt j'avais même pas eu besoin d'emprunter pour financer mes études enfin voilà j'avais quand même beaucoup de chance de ce point de vue là donc c'était tout relatif on va dire que c'était un risque par rapport à mes autres compères d'école qui eux gagner assez bien leur vie en sortie d'école dans des grosses boîtes et tout ça mais et puis surtout que je savais enfin en soi aller faire cette course donc la mini transat c'était pas un plan de carrière du tout je savais pas à quel moment j'allais gagner des sous dans ma vie donc voilà mais c'était tout relatif on va dire.
Ok, d'accord. Écoute, génial. En tout cas, je voulais juste recroiser un petit peu avec effectivement la voile étudiante, parce que c'est un univers que je connais pour avoir fait la SPI Dauphine et la CCE, pour ne pas les citer. C'est sûr que c'est vraiment des moments que j'encourage à faire aux jeunes étudiants parce que il y a une émulsion incroyable. Ils côtoient des skippers pros, parce qu'il y a l'obligation d'avoir un skipper pro sur le bateau.
Pas sur la CCE, je crois, mais sur le SPI Dauphine, peut-être, je sais pas, j'ai jamais fait. Mais peu importe. Mais oui, il y a plein de skippers pro.
Ouais, il y a beaucoup de skippers pro. Et en tout cas, il y a une superbe ambiance et ça permet de vraiment de découvrir ce sport d'une manière, je trouve, agréable et douce, en tout cas quand on est jeune. Donc, quelque chose que j'enregistre à faire, mais que j'encourage à faire, pardon. Mais du coup, je voulais un petit peu rebondir. Quand tu découvres et que tu sais pas encore comment est-ce que tu vas en gagner ta vie, il me semble que c'est en 2018 que tu signes avec ton partenaire de la Banque Populaire, c'est ça?
Ouais.
Ça t'a mis beaucoup beaucoup en lumière à ce moment-là. Comment est-ce que tu l'as vécu la différence? Est-ce que c'était toi une volonté de ta part de vraiment de te professionnaliser ou est-ce que ça a été un petit peu un coup du destin? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce partenariat?
Oui, en fait, donc du coup, moi, fin 2015, j'essaie de me lancer dans ce projet de mini transat, donc tracé d'Atlantique en solitaire qui a lieu tous les 2 ans. Donc moi, je me préparais pour l'édition à l'automne 2017. Donc c'était 2 ans, c'était 2 ans complets de préparation avec des courses de qualification, un parcours de qualification, plein de choses diverses et variées à faire, hein, parce que tu apprends à faire du bateau de course au large en solitaire pour traverser l'Atlantique tout seul sur ces bateaux qui n'ont pas le moyen de communication. Enfin, voilà, il y a tout un... Quand on arrive comme moi et qu'on n'a jamais fait de solitaire, quand on n'a jamais passé une nuit en mer tout seul, encore moins fait une course tout seul, enfin, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Voilà, pendant ce temps-là, en fait, j'étais amateur, donc j'avais eu la chance de trouver des sponsors pour mon projet, mais j'étais amateur, donc je me rémunérais pas avec ce projet. J'avais des bons sponsoring, donc ça voulait dire que, par exemple, je perdais pas d'argent sur mon bateau que j'avais acheté en perso. Enfin, grâce à mes sponsors, j'étais dans une super, dans des super dispositions pour m'occuper de mon projet, mais à titre personnel, pour payer mon loyer et ma bouffe au quotidien, j'avais pas de sous. Je travaillais un peu en freelance, en fait, en marketing digital. En fait, je travaillais à la journée au sein d'une asso d'ailleurs de collectif, un collectif d'indépendants à Lorient qui s'appelle La Coloc. Enfin, voilà, okay. Donc il y avait pas mal de copines qui me refilaient aussi des boulots. Enfin voilà, c'était un peu du bricolage, mais ça me permettait de subsister. Et en fait, après cette mini transat où je suis arrivée deuxième, donc ça c'était une sacrée aventure et enfin faut vraiment imaginer que c'est une aventure qui change un peu une personne, quoi. J'ai été 25 jours en mer sans moyen de communication, donc tu parles à personne.
C'est la première fois,
enfin il y a vraiment un avant et un après une course comme ça, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que souvent les gens sont un peu perdus. À chaque édition il y a à peu près 80 participants et beaucoup vont revenir à leur vie un peu plus normale après, mais c'est pas facile, quoi. T'as vraiment c'est vraiment une aventure hors du temps et hors du commun. Et moi, après cette aventure là à l'origine j'avais pas du tout décidé de continuer à faire la course au large, simplement j'étais devenue complètement accro et il se trouve que j'avais montré que je m'en sortais pas trop mal, et c'est vrai qu'en plus qu'il y a pas beaucoup de femmes dans le monde de la course au large, donc on a la chance en tant que femme d'être pas mal mise sur le devant de la scène quand on a des bons résultats. Donc 2018, ça a été une année un peu de réflexion. J'ai eu pas mal de projets de bateaux, mais je savais pas encore si je voulais en faire mon métier ou pas. Donc c'était un peu une année de bricolage, mais où j'ai fait plein de choses. J'ai fait une transatlantique en double sur des bateaux un peu plus gros, avec mon conjoint Tanguy Le Turquet. J'ai fait le Tour de France à la voile avec un équipage. J'ai fait plein d'autres courses en mini, etc. Jusqu'au moment où j'avais décidé avec mon sponsor de l'époque qui s'appelait Everial, qui est une société qui fait de l'archivage pour les sociétés, pour toutes sortes de sociétés, et de décider, on avait décidé ensemble que j'allais faire du Figaro. Le Figaro, c'est un peu la Ligue 1 en bateau, c'est leur course phare, ça s'appelle la Solitaire du Figaro, et c'est un peu des espèces de championnats du monde annuels de la course large en solitaire. Et donc on avait décidé ça ensemble, et au moment où on décide ça, quelques semaines plus tard, je suis appelée par Banque Populaire qui me propose là pour le coup carrément de préparer le Vendée Globe 2020 avec eux. Donc c'est une situation hyper particulière dans une vie tout court et dans une vie de marin encore plus, d'avoir la chance incroyable d'avoir deux sponsors qui te suivent pour deux projets extraordinaires en même temps, et sachant que les deux étaient pas forcément compatibles, donc ça a été très très particulier. Banque Populaire, ils m'ont appelé parce que ils venaient en fait de perdre leur bateau, en fait leur skipper phare, pardon, il s'appelle Armel Le Cléache, les gens doivent sûrement le connaître parce c'est un des plus grands marins français. Il a fait trois fois le Vendée Globe, trois fois sur le podium. Il a gagné la dernière édition du Vendée Globe. Et donc en 2018, ça faisait un an que Banque Populaire avait mis à l'eau, enfin un peu moins d'un an d'ailleurs, un maxi trimaran. Donc c'est très très grand bateau à trois coques, conçu pour battre des records. C'est souvent les bateaux qui gagnent, qui sont les premiers arrivés lors de la Route du Rhum. Les bateaux qui gagnent le trophée Jules Verne. Enfin voilà, c'est des bateaux faits pour. Enfin, c'est vraiment des géants des mers. C'est ce qu'on appelle la catégorie ultime. C'est les plus grands bateaux de course large possiblement menés en solitaire. Et Armel a eu un grave accident sur la Route du Rhum 2018 où il a cassé son bateau, et par la suite, son bateau, du coup, a chaviré, s'est retourné. Il a été sauvé un peu in extremis par des pêcheurs portugais au milieu, milieu du golfe de Gascogne, voire même quasiment au milieu de l'Atlantique, un peu plus loin que juste le golfe, quoi. Et Banque Populaire, du coup, a perdu, ce trimaran, il a été récupéré, mais il a été déclaré épave, c'est-à-dire qu'il n'était pas reconstructible. Et donc, à la suite de cette perte, ils ont décidé d'avoir un autre projet. En fait, ils ont vite décidé de reconstruire un trimaran. Donc ça, c'était une super nouvelle pour Armel et pour toute l'équipe Banque Populaire. Mais ils ont voulu quand même, pendant la construction de ce trimaran, continuer à avoir un grand bateau Banque Populaire qui naviguerait sur des grandes courses au large. Et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé de faire le Vendée Globe avec eux. Enfin voilà, donc là, c'est en fait, ce qui est complètement fou, c'est que c'est une somme d'événements complètement indépendant de ma volonté et qui sont arrivés jusqu'à moi, jusqu'à un moment où le directeur du team m'a proposé de faire le Vendée Globe avec eux. Et là, pour moi, c'était une énorme surprise parce que moi, ça faisait que 3 ans, même pas, que je faisais de la course au large, et j'aurais pu citer des dizaines de marins qui potentiellement méritaient plus d'avoir une opportunité comme celle-ci, ou Et voilà, mais donc on en a beaucoup discuté ensemble et ils m'ont expliqué aussi pourquoi ils m'avaient choisi, enfin voilà, pour plein de raisons. Et j'ai mis un peu de temps pendant quelques jours, quelques semaines à réfléchir avec pas mal d'insomnie avant de leur dire oui. Et ouais. Voilà comment je me suis retrouvée à me lancer dans ce projet-là.
Ah, génial, génial. Bah, t'as récupéré un bateau, comme tu l'as dit, un bateau qui a tout gagné. Ouais. Ça donne pas un peu la pression de prendre la barre d'une coque aussi auréolée ?
Si, c'est moi. Alors, moi, mon bateau, il a. Donc, les bateaux du Vendée Globe, c'est des bateaux de 18 mètres. On appelle ça des IMOCA. C'est une classe de bateaux particulière. Okay. Ils répondent tous à une jauge particulière. Tous les bateaux du Vendée Globe, ils sont pareils. C'est des monocoques de 18 mètres, mais qui sont pareils. Ils sont de même type, mais par contre, après, ils sont tous prototypes, donc ils sont tous un peu différents. Et moi, mon bateau, il a été mis à l'eau en 2010 pour un certain garçon que vous connaissez aussi sûrement, qui s'appelle François Gabart, qui a gagné le Vendée Globe en 2012 avec ce bateau. Ce bateau, il a aussi gagné deux fois la Route du Rhum avec François Gabart et avec ensuite Paul Meillat qui a eu le bateau après François. Et voilà, et ensuite il est aux mains de Clarisse Kremer. Donc forcément,
c'est sacrée histoire.
C'est intimidant. Il a toujours été entre les mains de personnes capables de l'utiliser au top de son potentiel. Donc forcément, ça met un petit peu la pression. Après, aujourd'hui, enfin voilà, les bateaux de course au large sont des bateaux qui évoluent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc d'une certaine façon, bateau qui a près de 10 ans comme le mien, il
ressemble plus beaucoup à ce qu'il y avait avant.
Il ressemble un petit peu, mais c'est surtout il est un petit peu dépassé. Enfin, comment dire, il est pas du tout dépassé. Moi, j'adore mon bateau, il est parfait pour mon projet, il est génial, mais il est moins performant que les tout nouveaux bateaux qui ont été construits ces dernières années. Et du coup, mon bateau, on va dire techniquement, ne me met pas sur le devant de la scène. C'est-à-dire que c'est pas un bateau qui peut gagner le Vendée Globe. Il n'est pas assez performant, mais moi ça me va très bien parce que par contre c'est un bateau qui a été très fiabilisé, il a été très étudié sous toutes les coutures pendant les nombreuses années pendant lesquelles il a navigué, il a été optimisé par des personnes hyper talentueuses, etc. Donc il est au top du top pour moi, mais donc oui, le palmarès de ce bateau me donne la pression et en même temps c'est un bateau qui est un peu plus à mon image, on va dire que les tout derniers bateaux de dernière génération, qui sont aujourd'hui des bateaux qui ont ce qu'on appelle des foils, donc en fait, ce sont des plans porteurs, un peu comme des ailes d'avion qui vont dans l'eau et qui font que les bateaux actuels, les nouveaux bateaux du Vendée Globe, sont des bateaux qui volent quasiment.
Ils
touchent toujours un petit peu l'eau, mais quasiment. Enfin, il y a des moments où ils vont à des vitesses qui sont faramineuses et ça devient vraiment des engins de guerre, quoi. Et là, on se pose même la question de savoir jusqu'à quel point l'humain va réussir à tenir psychologiquement pendant. Il faut imaginer que les premiers, a priori, ils vont mettre un peu plus de 70 jours à arriver à faire le tour du monde pendant ce Vendée Globe. Il faut tenir 70 jours sur une machine qui est sur le fil du rasoir en permanence. Et donc là, c'est un autre sujet. Moi, j'ai un bateau qui a ce qu'on appelle des dérives droites. Donc, c'est pas un bateau qui vole, c'est un bateau qui va vite. Il n'y a pas de souci, mais qui est un peu plus classique, qui ressemble un peu plus à ce qu'on se fait de l'image d'un bateau et qui est un peu plus rassurant. Voilà.
Ouais. Bah, comme tu l'as très bien expliqué, c'est un sport où la technologie joue beaucoup. Ouais. Et en plus de ça, bah, tu l'as mentionné, il y a l'attention et le sommeil qui sont vachement importants. Est-ce que c'est des choses que toi, tu arrives à travailler alors, je voulais pas poser un peu la question tarte à la crème de savoir si une femme avait moins besoin de sommeil ou si elle avait une meilleure concentration que les hommes, j'en sais rien du tout. Mais toi, est-ce que tu le travailles, ce point en particulier ? Parce que c'est quand même un effort physique conséquent et il faut être capable de réussir à dormir en mini-tranche de quart d'heure ou d'heure. Je ne sais pas trop comment toi, tu t'organises. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se travaille selon toi ? Et toi, comment est-ce que tu t'entraînes et te prépares pour ce genre d'épreuve ?
Oui, bah, c'est sûr que la course large en solitaire, c'est très particulier. Et ce qui rend très particulier tout ça, c'est le fait que on puisse pas il faut pouvoir d'une certaine façon veiller alors qu'on est tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on dort par des toutes petites tranches, pour la sécurité du bateau, pour la performance aussi, parce que le vent, c'est quelque chose qui change tout le temps. Donc effectivement, sur des petites courses, par exemple, moi, l'année dernière, du coup, j'ai participé à la solitaire du Figaro, où c'est des étapes de 3-4 jours, on dort par tranche de 5-10 minutes, et en 3-4 nuits, on dort une heure et demie par nuit maximum. Là, c'est vraiment des états où on se met dans des états qui sont vraiment graves, quoi. La limite, c'est le moment où on commence à avoir des hallucinations et là on se dit bon je vais aller dormir quoi. Mais
ça t'est déjà arrivé?
Ouais, ça m'est déjà arrivé, surtout au début en fait, en mini là, dans mes premières courses en solitaire où t'atteins des niveaux en fait, quand tu connais pas ta fatigue, quand tu sais pas jusqu'où tu peux aller, tu t'attends en fait, tu cherches, tu sais pas quand est-ce que tu deviens dangereux pour toi-même, tu sais pas quand est-ce que tu commences à ne plus être performant, du coup tu te cherches un peu. Mais maintenant ça m'arrive beaucoup moins parce qu'en fait je sais aller me coucher avant d'être dans cet état-là. Trouve qu'en plus maintenant je suis sur un très gros bateau, il faut imaginer un bateau de 18 mètres avec un mât qui monte à 28 mètres de haut, qui pèse près de 10 tonnes, des voiles qui font jusqu'à 400 mètres carrés, enfin c'est un énorme machin et je peux pas me permettre d'être dépassée par ma machine parce que sinon ça va être la catastrophe. Du coup, on dort quand même plus que, par exemple, sur une course, comme je viens d'expliquer, la solitaire du Figaro. Donc, on va être amené, en fonction des endroits, à dormir par tranche de une demi-heure, de une heure. Mais on va faire en sorte de dormir, sauf cas exceptionnel où vraiment il y a un souci ou une période où on ne peut pas faire autrement. Mais on va dormir 4, 5, 6 heures par nuit quand même. Parce que sinon, on ne tient pas tout un Vendée Globe, on ne tient pas 3 mois, on ne tient pas même une transatlantique de 15 jours en dormant moins de 4 heures par nuit. C'est pas possible. Donc, on dort quand même un petit peu. Et toute cette partie-là, alors, oui, ça se travaille sur le côté lâcher prise. En fait, ce qui est le plus dur, c'est il y a un bateau qui avance à toute allure avec des éléments qu'on ne maîtrise pas. Il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment et il faut aller dormir avec personne qui surveille la machine. Et donc là, ça demande des capacités de lâcher prise qui se trouvent pas tout de suite, quoi. Et c'est vrai qu'au début, moi, je l'ai pas mal travaillé avec des exercices de sophrologie, avec ce qu'on appelle un peu de l'auto-hypnose, même si je pense que à mon stade, c'est même pas de l'auto-hypnose, c'est juste quelques petites clés un peu basiques pour réussir à se détendre et à se dire, ça sert à rien de garder un œil ouvert, vas-y, endors-toi. Voilà, donc ça travaille un peu.
C'est un nom qui fait un petit peu peur.
Voilà, mais la course au large, c'est quand même avant tout un sport d'expérience et avant d'être allé naviguer, avant de se rendre compte de tout ça, on peut pas vraiment travailler cet aspect-là. Et plus on navigue, plus on se connaît, plus on va y arriver. Et donc, par exemple, on nous pose souvent la question, est-ce que juste avant une course, vous dormez par tranche de 10 minutes ou d'une heure? Non, on part le plus reposé possible en ayant fait des plus grosses nuits possibles. Et après, une fois, en fait, quand on est en mer, il faut imaginer qu'on est quasiment une autre personne. Notre mental est hyper différent. Et c'est ce mental-là qui va prendre le relais. Et donc, c'est quasiment impossible de s'entraîner à dormir par tranche de 10 minutes, un quart d'heure, quand on est à terre, quoi. On est vraiment dans un état un peu second, un peu différent quand on est au large, quoi. Voilà.
Tu serais capable de mettre des mots un peu sur cette personnalité que tu es quand tu concours?
Oui, après, bien évidemment, je suis toujours la même personne, mais en fait, il faut imaginer que... alors moi, en ce qui me concerne, c'est il y a deux choses qui prennent le relais en fonction des moments. Au sens large, c'est cette espèce de sentiment d'avoir un objectif ultra précis. D'être... par exemple, ça va être celui de traverser l'Atlantique et tu te dis, il n'y a rien qui va m'en empêcher. Ou celui de faire le tour du monde où tu te dis, moi, mon objectif, c'est de faire le tour du monde. Et à chaque instant, même, tu vois, là, aujourd'hui, pour aller faire une séance de sport, si je dois faire la 35e pompe, la 35e pompe, j'y arriverai que parce que je suis en train de penser à cet objectif-là. Et donc ça, c'est une espèce de projet, d'objectif chevillé au corps qui fait que tu trouves des ressources au fond de toi que tu trouverais absolument pas si tu n'avais pas cet objectif-là. Et puis la deuxième chose, c'est l'esprit de compétition. Par exemple, quand tu crèves d'envie d'aller dormir, parce que quand tu dors par tranche de 10 minutes et à raison d'une heure et demie par nuit, là, sur cette solitaire du Figaro où ça dure 4 étapes de à chaque fois 4, 5, 3, 4, 5 jours, ton corps, il a qu'une envie, c'est d'aller dormir, en fait. T'as toute une partie de ton cerveau qui a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et du coup, plus l'autre partie de ton cerveau qui a un esprit de compétition de dingue et qui dit, je refuse que le mec à côté de moi, il aille 0,1 nœud plus vite pendant ces un quart d'heure où je vais aller dormir, et bah, du coup, tu vas pas aller dormir ces un quart d'heure. Et donc, pour moi, c'est ces deux choses qui me tiennent en fait quand je suis en mer et que je suis épuisée. Et donc c'est un côté un peu guerrier, un peu sauvage, c'est de la ténacité et du un peu d'orgueil aussi, tu vois, tu veux pas que les autres soient meilleurs que toi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, il y a une espèce de cocktail un peu explosif qui fait que tu tiens. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir à quel point on peut aller au-delà de nos capacités physiques, parce que moi, à terre, je suis quelqu'un qui dort énormément, qui adore le confort, qui adore prendre une douche chaude, qui aime bien bien manger, alors qu'en mer, c'est tout l'inverse, quoi. Et c'est assez amusant de voir à quel point le fait d'avoir un objectif précis nous permet d'aller chercher des choses au plus profond de nous, quoi.
Ouais. Mais c'est dingue parce qu'en plus tu vois pas l'adversaire dans le blanc des yeux, tu vois, c'est pas comme un combat de boxe ou un match de rugby où tu le vois devant, ouais. Tu dois l'imaginer, donc c'est vraiment aussi un combat contre ouais. Soi-même. Tu fais un petit peu de préparation mentale ou d'exercice, un petit peu de motivation, que ça soit sur terre ou sur mer.
Ouais, alors moi j'ai une coach mentale, mais qui est plus, elle est coach en entreprise, elle m'aide plus, on va dire, à gérer mes faiblesses ou mes fragilités de caractère de terrienne, mais qui peuvent aussi se retrouver, okay. En mer. Enfin, ça me permet de partir en mer sans me laisser sans jamais laisser de prise au problème de terrien, en fait. Enfin, en gros, c'est ça. Après, c'est vrai que là, j'étais censée commencer une préparation mentale en vue du Vendée dans un objectif plus sportif. Et je ne l'ai pas encore commencé pour diverses raisons de confinement, notamment. C'est vrai que pour les objectifs que j'ai pas tant de préparation mentale que ça. Mais... comment dire, la course là, ça dure longtemps. Enfin, on est pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et donc là, peut-être plusieurs mois confrontés à soi-même. Et c'est vrai que moi, par contre, je lis pas mal de livres sur des sportifs, sur des livres de psychologie positive, des choses comme ça. Parce qu'en fait, comment dire, c'est hyper empirique comme préparation mentale, quoi. En fait, de toute façon, tu t'es confronté à tes défauts, t'es confronté à tes coups de nerfs, t'es confronté à tes trucs. Peut-être que je me trompe. En fait, c'est sûrement parce que je l'ai jamais fait que je dis ça. Mais j'ai l'impression qu'en quelques heures de discussion avec quelqu'un qui n'est pas avec moi sur l'eau, j'arriverai pas à lui expliquer tout ce qui me passe par la tête quand je suis en mer, quoi.
Non, mais c'est sûr, c'est dur. C'est sûr que tu dois être dans un état second. T'as mentionné des livres. Est-ce que y en a un ou deux que tu pourrais recommander aux auditeurs qui t'ont marqué ou qui t'ont vraiment fait progresser à ce niveau-là?
Ouais. Alors dans les trucs vraiment de psychologie, et pour le coup c'est hyper hyper classique, c'est les bouquins de Christophe André. En fait, les problématiques d'incertitude, de manque de confiance en soi, de problèmes d'estime de soi, etc., c'est des choses qu'on va vachement retrouver en bateau, parce qu'en fait on a plein de problèmes et comme on est épuisé, on se convainc toujours que ça se passe mieux sur les autres bateaux, que l'herbe est plus verte chez le voisin, etc., et en fait non. Et du coup, c'est avoir plus confiance en ses choix et tout, ça fait vraiment partie de réussir à tenir le bon bout quand on est en mer. Et puis après, sur les côtés, là dernièrement, un des bouquins que j'ai lus, alors ça n'a rien à voir avec ma psychologie, en l'occurrence, je me sens hyper différente de cette personne, mais il y a le bouquin de André Agassi, je me souviens même plus du titre, mais où il raconte un peu toute sa vie de tennisman et qui est un peu même limite sordide, en fait, parce qu'il explique qu'à la base, il aimait pas forcément le tennis. Mais en fait, en se nourrissant, en fait, moi, ce qui m'aide vachement, c'est bizarre, hein, mais c'est de découvrir des failles chez des très grands champions. En fait, tu te rends compte que tous les grands champions ont une faille quelque part, et du coup, de se dire, en fait, d'accord.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Accepter ses défauts, en fait, tout simplement, et de se dire qu'on sera jamais... J'ai pas la prétention d'essayer de me changer pour devenir, pour avoir moins de défauts et pour être plus solide en mer, mais j'ai la prétention de réussir à mieux gérer ces défauts-là. Voilà.
D'accord, ok. Ben, c'est génial, c'est une démarche hyper intéressante. En tout cas, c'est vrai que le livre d'André Agassi, on en a beaucoup parlé. Donc, il est dans ma bibliothèque, là, juste en face de mes yeux. Au moment où
il faut
te parle.
Le lire, il est assez fascinant.
Ouais, exactement. Bah moi, si tu veux, je peux te recommander pour vraiment l'aspect mental. J'avais énormément d'a priori, mais c'était sûrement un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de ma vie. Ça s'appelle Total Recall. C'est l'autobiographie de Arnold Schwarzenegger. Ouais. Et finalement, c'est un homme qui a énormément de qui a repoussé ses barrières mentales au plus loin et qui a réussi en fait à transposer ses compétences de la musculation, qui a réussi à les transposer au business dans l'immobilier et ensuite qui a réussi à le transposer pour devenir acteur et ensuite encore les transposer pour devenir un homme politique. Donc voilà, moi je recommande ce livre énormément. Et voilà. Et je voulais rebondir sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure parce que tu as mentionné plusieurs fois Armel et après tu as aussi parlé d'expérience sur un bateau. Et j'ai vu que pour la dernière Transac Jacques Vabre en 2019, vous étiez ensemble et qu'il était un petit peu ton coach et ton mentor. Et je voulais savoir un petit peu comment cette paire avait été créée. Alors, tu avais effectivement raconté que lui, c'était un ancien skipper avec le même partenaire que toi. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'est un peu imposé? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Et aujourd'hui, quelle est la relation que vous avez tous les deux? Et qu'est-ce que t'en tires,
oui,
toi?
Oui, alors, c'est beaucoup plus qu'un ancien skipper du même sponsor. C'est le skipper historique, en ce moment, en tout cas, de Banque Populaire. Et ils sont en train de reconstruire un grand trimaran pour lui, qui sera à l'eau dans un an à peu près, donc j'ai pas la prétention de lui prendre sa place, attention. Non mais c'est important parce qu'il faut le dire quand même. Et non, en fait, bah ça s'est fait un peu par la force des choses, hein. Pour être complètement transparente, on s'est pas choisi. On a été j'ai été un peu rajoutée dans cette équipe Banque Populaire pour ce projet Vendée Globe. Il a été décidé, comme Armel était dans l'attente de la construction de son trimaran. Alors, il n'était pas oisif du tout, hein, pour autant. Hein, il a fait du Figaro, il a fait plein d'autres choses. Mais il a été décidé qu'on ferait la Transat Jacques Vabre ensemble à l'automne dernier. Donc, la Transat Jacques Vabre, c'est une course en double entre Le Havre en France et Salvador de Bahia au Brésil. Dans le cadre de la préparation de cette Transat Jacques Vabre, on a passé pas mal de temps ensemble à naviguer et ça a été un peu mon premier formateur, on va dire, sur l'IMOCA. Et ça, c'est une chance extraordinaire parce que Armel, donc, comme je disais tout à l'heure, il a une expérience énorme sur ces bateaux-là et il a pu me montrer comment utiliser ce bateau-là au top de ses capacités. Et en plus, on a fait une super place. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un bateau qui n'est pas de toute dernière génération et qui n'était pas censé... qui est plus capable de faire un podium sur des courses comme ça. Et on a terminé sixième sur 27 bateaux au départ de la Transat Jacques Vabre. Donc, c'était une super performance. Et voilà. Donc, on ne s'est pas du tout choisi. Et même à titre personnel, à titre humain, on ne se connaissait pas du tout. Donc, on s'est retrouvés sur ce projet comme ça, avec comme objectif de passer 15 jours en mer que tous les deux sans même se connaître. Donc, ça, c'est assez particulier. En plus, c'est vrai que Armel, s'il avait dû faire une course en mode performance, il aurait jamais choisi un marin comme moi, parce que moi, j'étais relativement bisu et novice sur ce bateau. Donc forcément, il n'était pas... enfin, il m'aurait pas choisi moi. Et en plus, on est assez différents. Moi, je suis assez, bah, comme tu le vois, volubile, assez bavarde et tout. J'ai tendance à dire un peu ce que je ressens, à beaucoup partager mes sensations et mes sentiments. Tandis que lui, il est un peu plus réservé, un peu moins bavard, et en même temps, et en plus, il est pas du tout il est au milieu de sa carrière, en fait. Enfin, il a encore plein d'aventures devant lui, ouais. Donc c'est un peu particulier d'être dans ce côté pédago et professeur, alors que lui-même est encore à fond actif en tant que marin, compétitif, voilà. Ouais. Donc ça a été tout un tas de petits défis, mais en fait, ça s'est assez bien passé. En fait, on était tellement différents que bah, enfin, en tout cas, de mon point de vue, ça s'est super bien passé parce que il y avait jamais un mot de travers à bord, il y avait jamais une phrase de trop, il y avait pas de critique inutile, il était hyper voilà, personne parlait pour ne rien dire. Alors peut-être moi un peu de temps en temps, mais comme j'étais un peu intimidée, je parlais quand même moins que d'habitude. et voilà, c'était bien, mais il a pas vraiment, par contre, du coup, comme on se connaît un petit peu moins humainement et que lui, il est encore à fond dans ses projets bateaux de son côté, il y a un petit peu moins ce côté mentor. C'est vraiment, ça a été mon professeur pendant 6 mois, mais c'est un peu moins, c'est plus le gérant du team Banque Populaire aujourd'hui qui est mon mentor pour gérer mon projet Vendée Globe. Mais par contre, Armel est toujours là dès que j'ai une question sur la gestion du projet et sur comment ça se passe en mer.
Quoi. D'accord, ok. Ok. Et en tout cas, c'est hyper intéressant de voir un petit peu. Et toi, tu penses que c'était un passage obligatoire pour accélérer ta connaissance, d'avoir quelqu'un qui soit à tes côtés et qui puisse t'apprendre. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après?
Bah, en fait, je sais pas si c'était obligatoire, mais il faut quand même imaginer que le projet était assez rapide. Là, il est encore raccourci par cet aspect du confinement, mais il fallait qu'en moins de 2 ans, je sois capable d'être sur la ligne de départ du Vendée Globe sur ces bateaux-là. Alors, je partais pas du tout de zéro, hein, mais sur ces bateaux-là, je partais de zéro. Et je pense que j'y serais. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. Hein, je suis pas encore sur la ligne de départ et encore moins sur la ligne d'arrivée. Il y a jamais une seule façon de faire en course au large et dans le sport en général, je pense. Donc potentiellement j'y serais arrivée différemment sans Armel, mais on va dire que là c'était plus ou moins la situation idéale. On peut difficilement rêver mieux que d'être drivé par le plus grand champion dans cette catégorie-là, en plus quelqu'un d'hyper rigoureux qui sait donner ses techniques et qui sait expliquer pourquoi il fait ci ou il fait ça. Tu sais, c'est pas quelqu'un. Alors bien évidemment, il travaille aussi au feeling, mais il a quand même toute une partie hyper rationnelle dans sa façon d'agir. Donc il peut te transmettre ses réflexions. On va dire que je vois pas trop d'autres situations dans lesquelles en si peu de temps j'aurais pu apprendre autant, voilà. Parce qu'ensuite, en fait, à l'issue de la tournée de Jacques Vabre, j'ai ramené dans l'idée de d'apprendre et de me qualifier pour le Vendée Globe, j'ai ramené le bateau en solitaire depuis le Brésil jusqu'à Lorient. Donc en fait, j'ai commencé à faire de ce bateau-là courant juillet et début novembre, je repartais toute seule pour une traversée de l'Atlantique en solitaire, quoi. Donc, c'était quand même un apprentissage rapide. Après, c'était un mode très différent de ce qu'on a pu faire en course en double avec Armel. C'était un mode beaucoup plus sécure, à faire les choses plus lentement et à se mettre moins dans le rouge, quoi. Mais c'est vrai que j'étais quand même hyper fière de pouvoir ramener le bateau. Et je sais pas si j'aurais appris autant de choses. Déjà toute seule sans coach, très certainement que non, et avec un autre marin, je sais pas.
D'accord, ok. Bon, génial. Le temps avance pas mal et il y avait un sujet qui est sûrement un peu incontournable avec toi. C'était comment bien le formuler, peut-être la féminité dans la voile. Mm-hmm. Je voulais pas te poser des questions tarte à la crème, mais tu vois, j'étais quand même un petit peu curieux de savoir ta perception des choses. Et peut-être que avant, pour que les auditeurs se rendent bien compte, parce que je sais que beaucoup d'auditeurs ne sont pas forcément des voileux et plutôt dans l'univers de la course à pied, par exemple, ou du trail. Mm-hmm. Mais pour qu'ils se rendent un petit peu compte, la première femme qui a vraiment réussi à gagner des grosses courses, c'était Hélène MacArthur, dis-moi si je me trompe.
Oui, hein, avec Hélène MacArthur ou Florence Artaud. Enfin, oui, il y en a eu.
Un peu plus tard, un petit peu plus tard. Et avec oui, la route du Rhum en 2000. Il me semble que Florence Artaud, c'est un petit peu plus tard. Peut-être que je me trompe, mais.
Alors moi j'aurais dit que c'était un peu avant, mais je suis pas très douée. J'ai le droit de chercher sur Google ou pas?
Bon, on se corrigera et je mettrai les infos dans la description de l'épisode. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ces deux femmes qui ont vraiment marqué l'histoire de la voile et de la course au large. Elles sont aussi assez remarquables par leur personnalité, parce qu'elles avaient une personnalité très forte, peut-être un petit peu un côté garçon manqué, elles n'avaient pas la langue dans leur poche.
Ouais.
Toi, tu as l'air d'être une fille, je sais pas comment dire, mais en tout cas plus joviale, peut-être un petit peu plus accueillante. Comment est-ce que tu te situes par rapport à elles? Est-ce que c'est des sources d'inspiration? Est-ce qu'on te la comparaison revient souvent? Comment est-ce que toi tu vois un petit peu ces deux personnes-là et comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça? Désolée, ma question n'était pas forcément très construite, mais au moins
c'est
ça lancera le
sujet. C'est un sujet qui est un peu flou parce qu'en fait forcément donc il y a pas beaucoup de femmes dans la course au large, hein. En moyenne, en fonction des courses, on est entre 5, 10, 15% quand vraiment il y a du monde. Sur le dernier Vendée Globe, il y avait absolument aucune femme. En tout, il y a, je crois, uniquement 7 femmes qui ont participé au Vendée Globe depuis sa création. C'est sûr qu'on est peu nombreuses, donc forcément, quand il y en a une nouvelle, mais je suis pas la seule, hein, qui arrive, bah, on a tendance à nous considérer, à nous comparer, ou en tout cas à nous évoquer, les femmes les plus connues qui ont existé dans ce milieu-là. Moi, c'est vrai que c'est des femmes que j'ai pas rencontrées personnellement. J'ai vaguement croisé Catherine Chabot, j'ai vaguement croisé Isabelle Autissier, mais c'était des moments très succincts. J'ai pas du tout l'impression d'exister en comparaison par rapport à elle. Et je pense qu'il y a un trait qu'on retrouve pas mal dans, je veux pas faire une généralité, mais dans quand même beaucoup de femmes qui font de la course au large, c'est qu'on se considère pas vraiment en tant que femme. C'est-à-dire que on est un marin, on est un navigateur qui va faire des courses et à aucun moment on se dit c'est normal que je sois derrière parce que je suis une fille ou à aucun moment on se dit que enfin on se sent pas en compétition avec les autres femmes ou du plus enfin voilà on est un compétiteur parmi les compétiteurs, un marin parmi les marins.
Ouais.
Et le sujet de la femme, c'est un sujet qui est souvent évoqué par les personnes un peu extérieures ou en tout cas qui pratiquent soit par les femmes qui ne sont pas pratiquantes, soit par enfin, je sais pas trop comment dire, mais c'est pour moi, c'est pas bien évidemment que c'est un sujet parce que pourquoi il y a si peu de femmes et comment on est fichu différemment, donc forcément c'est différent pour nous de faire la course large, mais j'ai pas l'impression que les femmes le vivent comme un sujet, sauf pour éventuellement, je pense par exemple à une Suisse qui s'appelle Justine Métro que j'ai côtoyée pas mal ces derniers temps. Qui est une des grandes navigatrices aujourd'hui, enfin qui vraiment arrive à être en compétition avec les meilleurs marins hommes-femmes confondus et qui essaye via une asso qui s'appelle The Magenta Project, qui est une asso un peu plus anglophone, de permettre à des nouvelles femmes d'exister dans le monde de la course au large. Donc il y a des actions comme ça pour aider les femmes à un peu plus exister, parce que c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, donc c'est bien de pouvoir inciter plus de femmes à le faire, mais c'est pas un sujet par contre dans notre pratique au quotidien, on vit pas vraiment la chose différemment. Après donc voilà, enfin en fait pour répondre tout simplement à la question, je passe pas ma journée à me demander qui suis-je par rapport à Hélène MacArthur ou Florence Artaud. Bah c'est juste c'est des très grands champions, c'est des très grands marins des grandes championnes, des très grands marins et je suis ravie. En fait le seul truc c'est que je suis ravie qu'elles aient existé pour que je puisse m'identifier à elles pour que je puisse me dire ah en tant que femme c'est possible. Voilà. Mais à part ça, pour moi, c'est avant tout des marins, quoi. Voilà.
D'accord.
Et puis après, au quotidien, on est moins forte physiquement, mais on essaye de comprendre. Enfin, voilà, il y a des choses pour lesquelles, pour nous, c'est plus dur physiquement parce qu'on a, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'aura jamais autant de muscles, ce sera toujours un peu différent. mais on essaye de compenser.
Vous avez peut-être d'autres atouts.
Peut-être qu'on a d'autres atouts. Franchement, je serais incapable de faire des généralités. Il y en a qui disent qu'on est plus qu'est-ce qu'on dit, qu'on est plus réfléchi, moins. Enfin, franchement, j'en sais rien du tout. Je suis pas sûre qu'on puisse faire des généralités comme ça. Toujours est-il qu'il n'y a pas un seul type de très grand marin. Quand on parle de Armel Lecléache, de François Gabart, de Loïc Perron, de Franck Hamas, bah, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Ils ont tous comme point commun d'être très ténaces et d'être très travailleurs, etc. Mais ils ont des mentalités et des façons de faire et des physiques qui sont différents. Donc c'est pareil pour les femmes. Enfin, je veux dire, donc voilà, je suis toujours un peu nulle pour répondre à cette question parce qu'en fait j'ai pas de.
Non, mais c'était génial. Ta réponse, elle est parfaite.
J'ai pas de point de vue. Peut-être que je devrais plus en faire un cheval de bataille. Hein, j'en sais rien, mais pour l'instant, je vis la voile comme ça. Et puis après, je le partage parce que j'aime partager ça. Je suis volubile parce que je suis volubile dans la vie. Et du coup, voilà. Mais comme il y a des hommes qui sont bavards, des hommes qui ne sont pas bavards. Et voilà, enfin, il y a de tout, quoi.
Ok. Bah, non, écoute, non, moi, je suis super content de la réponse. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais en tout cas, t'as tout à fait raison de clarifier les choses et de dire que bah, c'est pas un sujet pour toi et que, au contraire, c'est juste, c'est un milieu dans lequel les femmes se considèrent pas tant complexées que ça parce que à partir du moment où elles sont sur l'eau, elles restent elles sont dans la course, voilà, comme tout
exactement.
Le monde. Il y a pas de voilà. Après, c'est sûr que tu vois, c'est aussi la question se pose forcément parce que ce qui est quand même hyper intéressant, c'est que c'est un des rares sports où les hommes et les femmes concourent ensemble et sont pas dans des catégories différentes.
Ouais.
Donc la question se pose forcément, tu vois, et je comprends que ça puisse attiser les curiosités. Et tu vois, là je regardais, juste peut-être pour terminer un peu sur le sujet, je regardais des petites interviews justement de Florence Artaud et d'Hélène MacArthur, et elle racontait que la voile, c'était quand même un milieu assez très masculin et parfois un peu macho, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle, elle s'était vachement endurcie. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé et qu'aujourd'hui les skippers sont des hommes beaucoup plus polissés et qu'ils ont un petit peu ravalé ce côté-là. Est-ce que tu le confirmes?
Alors, j'étais pas sur les pontons à la même époque que, parce que du coup, j'ai fait ma petite recherche, hein. Florence Artaud, c'est bien en 90 qu'elle a gagné la Route du Rhum. Non, mais du coup, en 90, moi, je suis née le 30 décembre 89, tu vois. Donc, j'étais pas sur les pontons. Donc, je peux pas comparer la période de cette grande dame à la mienne. Mais en fait, je pense aussi ce qui s'est passé, depuis les années 90 et même le début des années 2000, c'est un monde qui s'est beaucoup professionnalisé, qui est de plus en plus sérieux, on va dire. C'est-à-dire que on voit quand même de moins en moins souvent des marins au bar la veille d'une course, et c'est souvent maintenant de plus en plus des grands sportifs qui font beaucoup de prépa physique. Enfin, il y a quand même beaucoup de rigueur qui s'est installée là-dedans. C'est devenu plus un vrai métier. Enfin, ça l'a toujours été, mais avant c'était quand même plus un mode de vie où ça pouvait être un peu plus à l'arrache et tout. Et donc je pense qu'on va dire que c'est plus une mouvance de société. Je pense que de la même façon que aujourd'hui, alors même si bien évidemment il en existe toujours, aujourd'hui c'est quand même bien plus mal vu en entreprise les remarques sexistes que j'imagine il y a 20 ans. C'est pareil sur les pontons et c'est pareil sur un bateau. Et je pense que c'est la voile dans le caractère macho des personnes, c'est un peu que un reflet de notre société. Alors forcément, quand il y a plus d'hommes, on va être plus visible en tant que femme et donc plus sujette aux petites réflexions et tout ça. Donc forcément, ça devait être exacerbé du temps de Florence Artaud, ce genre de réflexion et ce côté macho. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu une vraie ça évolue et je le ressens pas comme ça aujourd'hui, même si bien évidemment, oui, on trouvera toujours des gens pour être macho, on trouvera toujours des gens pour faire des petites réflexions, et oui, ça m'est arrivé de temps en temps, mais mais c'est pas constant. Et je trouve que de plus en plus, justement, on donne cette chance aux femmes d'exister sur dans le monde de la voile. Et j'ai plus envie de mettre du côté positif. Après, oui, c'est sûr que il y a certains mecs avec qui j'aurais jamais envie d'aller naviguer parce que je sais qu'en tant que femme, je serais jamais vraiment considérée. Mais bon, c'est comme ça, quoi. ça existe toujours.
Ouais, ça me fait penser, ça me fait rebondir sur une autre question parce que j'ai beaucoup apprécié me balader un petit peu sur tes réseaux sociaux. Mmh. Et tu vois, j'ai en faisant un petit peu mes recherches, en regardant un petit peu d'autres marins, c'est vrai que il y a le fait que tu sois un petit peu plus jeune et le fait, alors je pense pas que c'est un rapport du tout au genre, mais que t'apportes un petit peu un vent de fraîcheur en tout cas sur ce milieu-là. Tu vois, moi j'ai trouvé tes réseaux sociaux une stratégie hyper intéressante parce que tu fais du vlogging presque, mm-hmm. où tu t'embarques ta caméra ou ton téléphone sur le bateau. D'où ça t'est venu un peu cette volonté de mettre un petit peu de communication autour de ce que tu fais et d'embarquer un petit peu tes fans avec toi durant tes courses et durant tes régates.
Et ben, au début, c'était vraiment... parce qu'au tout début, ce qui m'a permis de trouver des sponsors, c'était une série de vidéos qu'on a faites avec une amie qui s'appelle Anne-Laure Guilbeault, enfin Anne-Laure Gainé maintenant, où on avait contacté une entreprise qui s'appelle Michel Augustin. Enfin, en fait, au tout début, mon projet bateau a été très lié à des projets... à des projets vidéo et donc après quand je partais en mer je prenais forcément ma caméra pour raconter un peu ce que je vivais. Enfin, on va dire qu'il y a eu tout assez ouais. vite la naissance d'une petite communauté, hein, je peux être prétentieuse, mais qui me suivait et auprès de laquelle je me sentais un peu pas dans l'obligation parce que je le faisais avec plaisir, mais voilà, il fallait que je participe, que je partage un peu mes aventures. Et puis aussi vis-à-vis de mes sponsors qui me suivaient, il y avait un côté, on va dire, vraiment récit d'une aventure humaine qui avait vraiment son importance dans mon premier projet, donc de mini transat. Et du D'accord. coup, en fait, j'y ai pris goût. Et j'aime bien faire du montage vidéo, donc j'en ai fait beaucoup au début. C'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai un petit peu moins le temps, donc j'en fais moins. Mais en fait, je le fais vraiment parce que j'ai envie et parce que j'aime bien raconter un peu ma vie, comme tu peux le voir. Ça vient assez naturellement. Il n'y a pas vraiment une stratégie derrière tout ça, si ce n'est celle d'essayer de partager le plus fidèlement possible ce que je ressens en mer et même partager un peu les coups durs, ce qui parfois me joue des tours parce que par exemple à l'été dernier quand j'ai découvert l'Imoca, donc mon bateau du Vendée Globe, j'étais pas mal malade, j'avais pas mal de problèmes de mal de mer, mais ce qui arrive en fait très souvent aux marins quand sur ces gros bateaux-là parce qu'ils sont assez particuliers en termes de mouvement. Et donc, j'ai okay. commencé à partager ça, par exemple, sur un post sur les réseaux sociaux en disant, bah, dis donc, je suis pas au vent de la bouée, ça va être dur, quoi. J'en chie un peu, mais bon, ça va venir. Et du coup, tout de suite, hop, t'as plein de journalistes qui disent, ah, il y a une fille qui a le mal de mer, elle va jamais y arriver, etc. Et alors qu'en fait, je suis pas du tout la seule, mais simplement, comme j'en parle et comme j'explique, et bah, forcément, on m'a attaché cette étiquette. Et pendant plusieurs mois après, à chaque question d'un journaliste, et alors, il paraît que vous avez le mal de mer, comment vous faites? Et en fait, comme 70% des marins, enfin, je veux dire, enfin voilà, donc non, l'idée c'est, j'ai pas vraiment de stratégie, c'est essayer de partager. Après, parfois ça me pompe un peu l'air, je le fais un petit peu moins, parfois j'ai envie, je le fais plus, enfin j'essaye de ouais. rester le plus authentique possible, mais ce qui est pas toujours facile, hein, parce que forcément il y a l'image, il y a l'idée que se font les gens, enfin j'essaye de partager parce que je trouve que c'est important de montrer, j'aime bien essayer de montrer les petits côtés un peu absurdes de notre milieu, les petits moments que les gens se seraient pas forcément imaginés, et puis parfois tout simplement ça m'occupe et ça me fait marrer quand je suis en mer de parler à ma caméra, quoi. Voilà.
Ok. Bon, en tout cas, j'encourage vraiment les auditeurs à suivre notamment ta page Facebook Clarisse sur l'Atlantique, ouais. parce que bah tu vois, moi j'ai appris plein de choses, tu vois, en baladant un peu dessus, j'ai appris plein de choses sur la voile. Il y a un ton un peu décontracté, un peu sympa, et c'est vrai que tu vois, la voile avait, c'est quand même, il faut pas se le cacher, il y a un petit côté un peu mystique, tu vois, et un peu secret, où on sait pas trop ce qui se passe sur l'eau, on sait pas trop oui. ce que vous faites en dehors de vos régates. C'est un cercle un peu privé, des fois on a l'impression. Ouais. Et toi, t'as réussi un petit peu à l'ouvrir, je trouve, avec beaucoup de sourires déjà et beaucoup de bonne énergie. Donc c'était vraiment avec plaisir que bah, que j'ai commencé à suivre tes aventures et que j'ai pu me balader un peu sur ton contenu. Bah, donc,
écoute, tant mieux.
Bravo, parce que c'est du super beau, du super beau travail.
C'est gentil.
On arrive un petit peu à la fin. J'ai des questions un petit peu qui reviennent, qui sont des questions un petit peu proposées par les auditeurs et qui sont un petit peu des questions que tu peux répondre un peu du tac au tac ou de manière un petit peu plus approfondie si tu le souhaites. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi.
Une bonne journée, c'est une journée où j'ai connu le plus possible de moments de joie. Voilà.
D'accord. Génial. Eh ben, c'est une excellente réponse. Ça me va tout à fait.
Mais ça peut être boire une bonne tasse de thé, rigoler avec un voisin. Enfin voilà, ça peut être des moments de joie très simples.
Voilà, bah, très bien. Et qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur mer?
Alors moi, du coup, je pense que si j'avais un métier où je faisais pas trop de moments en mer, je passerais ma vie à essayer d'aller dans l'eau, faire du bateau, etc. Mais comme je suis beaucoup sur l'eau, j'avoue que quand je suis pas en mer, j'aime bien être dans la terre et j'aime bien aller me promener en forêt avec mon chien, aller courir en forêt avec mon chien. J'aime bien faire des bons petits plats, j'aime bien jardiner, j'aime bien... voilà, je suis plus dans des choses assez terriennes et assez classiques, mais qui font du bien parce que je trouve qu'il y a un des trucs que j'adore dans la voile, c'est que du coup, quand tu reviens à un vrai confort, t'en profites encore plus et tu te rends encore plus compte de la chance que c'est. Et j'adore regarder pousser mes plantes.
Écoute, c'est une super réponse, ça me va beaucoup. En tout cas, c'est plein d'optimisme. Et bah, tiens, ça va bien avec la question suivante. C'est quoi ton meilleur souvenir aujourd'hui en tant que marin?
En tant que marin, je pense que ça reste la première étape. Donc, ma première transatlantique en solitaire, elle était en deux étapes, entre La Rochelle, les Canaries et les Canaries, la Martinique. Et on a mis quasiment 11 jours pour arriver aux Canaries. Il y avait vraiment très peu de vent pendant toute une partie. Et j'ai passé près de 6 jours sans avoir personne en contact VHF, parce qu'on a quand même une toute petite radio à bord, mais qui permet d'avoir un contact juste à peu près une dizaine de kilomètres autour de nous. Donc, c'est très, très restreint. Et donc, j'ai parlé à aucun être humain pendant près de 6 jours. Et j'ai connu une espèce de phase, un peu d'extase. J'ai vraiment été heureuse d'être en mer, mais en fait je refusais d'écouter parce qu'on avait des espèces de vacations à une espèce de radio BLU, on peut que recevoir, on peut pas émettre, où on nous donnait le classement. J'avais arrêté d'écouter le classement, je voulais pas savoir où j'étais et je voulais juste profiter du moment présent sur mon bateau. Et j'ai connu une espèce de moment d'extase de plusieurs jours où vraiment j'étais la personne la plus heureuse du monde et j'en pleurais de joie à peu près 5 fois par jour en me disant j'ai juste énormément de chance d'être là. Je savais pas si j'allais continuer à faire du bateau après cette nuit transat. J'étais juste trop émerveillée et trop pleine de gratitude de vivre ce moment en mer. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à terre, à l'issue de cette première étape, bah, j'avais que un mot à la bouche. C'était juste merci d'avoir organisé une si belle course. J'étais juste trop heureuse et franchement, j'étais à deux doigts de pas m'arrêter aux Canaries. J'avais juste envie de continuer Enfin voilà, c'était vraiment un moment d'extase comme on n'en vit pas souvent, pas tout le temps en mer, parce que comme on est en mode compète et en mode, comme c'est quand même assez difficile. Physiquement et psychologiquement, parfois, on se met dans des états un peu durs et c'est pas tout le temps l'extase. Et là, ça l'a été, donc c'est un très, très beau souvenir. Voilà.
D'accord. Bah, merci de nous l'avoir partagé. En tout cas, c'était très chouette. Moi, je me suis plongé avec toi quelques secondes. Ça avait l'air cool. Tu te vois comment dans 10 ans?
Eh ben, ça, c'est mon grand souci dans la vie, c'est que je ne sais pas. c'est vrai que... ce qui est chouette, c'est que moi, dans ma vie, je me suis toujours permis de rêver et ça m'a emmené dans des chouettes endroits. Donc, je vais continuer de me permettre de rêver et peut-être que je serai sur un beau bateau sur les îles Marquises ou sur les îles Salomon en voyage avec ma famille ou un truc comme ça. Ça ou alors il y a un autre rêve que j'ai et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un de mes petits regrets dans mon quotidien de sportif qui parfois peut être un peu égoïste parce qu'on est très centré sur nos projets à nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour penser aux autres. Et du coup, je sais pas encore lequel, mais avoir trouvé peut-être que je continuerai à faire de la course au large, j'en sais rien, mais sinon avoir trouvé un métier où je suis peut-être un peu plus utile pour les autres au quotidien. Voilà. Mais je sais pas encore lequel.
D'accord. Ok. On suivra tout ça. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur ?
Oui, plein.
C'est la première fois qu'on répond avec autant d'enthousiasme.
Bah non, mais parce que en fait, quand tu pars pour le Vendée Globe sans l'avoir jamais fait avant, c'est des peurs, t'es pétri de toutes sortes de peurs et d'angoisses. Et j'en ai plein. Et en fait, c'est ça qui me fait le plus grandir. Enfin, ça m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit en me disant, mais comment je suis allée me foutre dans une galère? J'ai trop peur de me retrouver toute seule dans les mers du Sud. Ça, c'est angoissant, quoi. Tu vas être tout seul avec un énorme bateau, perdu au milieu de nulle part, avec personne qui peut venir t'aider. Bah ouais, j'ai super peur. Et en même temps, je sais que si j'arrive à surmonter cette peur, ça va me faire grandir. C'est ça, moi, que je vais chercher dans la course large tout le temps. Hein. Si je m'écoutais vraiment, si j'écoutais mes angoisses les plus profondes et mon envie de confort, je ferais pas exactement ça, quoi. Ouais, j'ai tout le temps peur, et je trouve ça hyper important de le dire, parce que les gens parfois moi j'ai vachement à cœur de dire que je suis comme tout le monde et que j'ai énormément de chance, c'est hyper privilégié de faire des projets comme ça, mais tu disais, j'ai un petit chien qui aboie derrière moi et j'arrive pas à le faire fuir.
Pas de soucis. j'ai mon fils qui
Moi je vais arrêter de parler, mais bon voilà, et du coup c'est hyper important de dire que j'ai plein de peurs et je maîtrise pas du tout ce que je fais, et par contre j'essaye d'être à fond et de travailler le plus possible pour limiter toutes les incertitudes, mais je maîtrise pas tout.
D'accord, mais écoute, c'est génial. C'est vrai que la peur, on n'en parle pas assez, mais c'est tellement un moteur fois quand on sait un peu la dompter, et quand on sait la comprendre, l'apprivoiser et l'affronter, c'est quelque chose de bien. En tout cas, t'en as fait une petite philosophie de vie, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt chouette. La dernière question, c'était de savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné.
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné
ta carrière.
Oh là là, alors là j'aurais dû préparer ça.
C'est pas forcément dans le sport, alors c'est pas forcément le meilleur, mais un conseil qu'on t'a donné récemment et qui t'a marqué.
Alors je sais pas, c'est peut-être pas un conseil que c'est peut-être pas une personne qui a verbalisé cette chose là, mais c'est de toujours essayer de prendre du recul. Enfin, c'est vraiment bateau comme truc. Enfin, c'est le cas de le dire. C'est juste quand on gère des gros projets, quand on est sur des lignes de départ, on s'inquiète pour toutes sortes de choses, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer dans la vie de tous les jours, et c'est vrai que moi je peux avoir comme je suis quelqu'un qui peut être un peu trop à fond dans émotionnellement dans ce que je fais, je peux être un peu submergée par les émotions, et du coup de réussir à sortir un peu de moi, et ça c'est des exercices, par exemple la sophrologie, des choses comme ça m'aide vachement, où en quelques respirations, en 2-3 minutes de pause, t'arrives à juste faire une pause dans ta journée et à prendre un tout petit peu de recul sur tout ce que t'es en train de faire et à enlever un peu d'importance. Et je trouve que ça aide à avancer, mais c'est pas un conseil, c'est pas une petite phrase magique qu'on m'aurait dit. Sinon, il y a une phrase que j'adore qui est de Bergson, qui est l'effort est pénible, mais il est aussi précieux et plus précieux encore que l'œuvre où il aboutit.
Ah, très belle phrase.
Mais bon, okay. Moi c'est que pour faire du bateau. Hein. Ça, je pense que ça devait à l'époque, ça devait dû être écrit pour des choses beaucoup plus graves. Mais
voilà. Mais ça s'adapte bien, en tout cas. Ok, génial. Comme tu le sais, la tradition pour terminer et clore ce podcast, c'est de savoir à qui je vais donner le micro pour un prochain épisode. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que dans les sportifs ou les marins que tu connais, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu verrais bien être interviewé sur le podcast Extraterrien ?
Alors si je te mettais la barre un
Il
peu
peut y
haut,
en avoir plusieurs.
Si je te mettais la barre un peu haut, parce que j'ai aucune idée de si c'est facile de contacter cette personne, et d'ailleurs je sais même pas si elle parle assez bien français pour faire un podcast.
Vas-y.
Je dirais Emily Forsberg, je sais pas si tu la connais, c'est une ultra traileuse qui est suédoise, je crois, mais qui vit en Norvège. Okay. Et qui m'inspire pas mal aussi dans sa façon de communiquer. Tu pourrais aller regarder. Qui est une très très grande championne. Alors, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas la définir en tant que telle, mais elle est aussi connue parce que c'est la femme de Kylian Jornet, qui est un petit peu plus connue qu'elle. D'accord. Mais voilà. Et donc, ouais. Je sais pas si tu vas réussir à aller l'interviewer, mais je pense qu'elle doit être assez intéressante. Et sinon, bah, dans le monde de la voile, il y en a plein des chouettes personnes qui mériteraient d'être connues. Là, je vais avoir du mal à t'en citer juste une. Je sais pas.
Ouais,
je sais
pas. Je sais plus. Plusieurs.
Tu peux aller interviewer Tanguy le Turquet, mon conjoint. Non, mais sinon, il y en a plein. Le directeur du Team Banque Populaire, Ronan Lucas, c'est quelqu'un qui a vécu plein de projets de façon hyper intéressante. Alors, parce qu'il a fait beaucoup de bateaux, mais là, en ce moment, il est un peu moins actif. Mais il y a des gens, comme Loïc Perron, qui est quelqu'un d'assez fascinant. Il y a Sam Davies, qui est une des femmes qui est une des meilleures femmes en course large aujourd'hui, qui est vraiment hyper intéressante aussi. Enfin, mais après, il y en a des moins connus aussi qui sont super intéressants. Il y en a plein. tout le monde est intéressant. En fait, tout le monde a un parcours de vie souvent assez. Il n'y a pas qu'une seule façon d'arriver dans la voile, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas un seul schéma, et ça, c'est intéressant.
C'est vrai. C'est vrai que c'est ce qui est très très beau, en tout cas, je trouve, dans ton histoire et dans d'autres histoires un petit peu de voile, c'est que les parcours sont assez atypiques et les chemins sont très différents et du coup sont parfois très inspirants. Ça me fait penser aussi à Yves Leblévec, qui a découvert un peu le haut niveau, passé 35 ans, et du coup ça détonne un petit peu de ce qu'on peut entendre, en tout cas dans les autres interviews du podcast. Mais écoute, merci beaucoup, Clarisse,
merci à toi.
J'ai passé un excellent moment. C'était un des meilleurs épisodes réalisés jusqu'à présent. Ça faisait super plaisir.
C'est gentil.
Et tu es aussi sympa que au téléphone.
Oui, voilà. Tu m'as pas encore vu en vrai. Si ça se trouve, je joue un jeu machiavélique.
Et ben, peut-être, on aura sûrement l'occasion de. Comme on dit dans ma famille, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Pour dire que voilà, on est toujours amené à recroiser les gens.
C'est mignon, ça, comme.
Exactement. Et donc voilà, petit proverbe d'alpiniste plutôt que de. On joue dans un autre élément. Mais voilà, pour conclure, en tout cas, merci infiniment. J'espère que toi aussi, t'as passé un bon moment.
Oui, carrément.
Et puis, je te dis à très bientôt.
Oui, ça marche. Et merci beaucoup, Barthélémy.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.